Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui sait pas quoi dire. Ouais, des fois les phrases d'intro, franchement, je rame. Hein. Faut trouver un truc marrant, voilà. Et puis aujourd'hui, non, j'ai essayé de ne pas être drôle. Faut dire, vu comme a été exceptionnelle l'émission précédente avec notre invité, je pense que oui, bah quoi, faut dire ce qui est. Je veux dire, c'était quand même une super émission.
Bon, non, c'est clair.
C'est dommage que t'aies pas pu venir. Mais autant tu vas voir que le coup t'arrives à venir et tout. Oui, donc nous n'avons pas encore enregistré cette émission de la semaine dernière, mais quand même. Une émission, tout ce qu'il y a de plus classique, avec du presque neuf, du rattrapage, du hors-sujet, et c'est déjà pas mal. Toujours notre principe en deux mots, nous définissons en deux mots le genre de la BD, et ensuite chacun d'entre nous choisit un mot pour le dessin et un mot pour le scénario, pour chaque BD que nous allons chroniquer. Nous commençons de suite avec le presque neuf, et pour cela j'accueille... comme à l'accoutumée, mon ami Thio, qui va nous parler de Ultimate Mystery. Qui est le Ultimate Spider-Man numéro 2. Hors série numéro 2. Voilà.
Hello!
Ah, ça y est, tu dis bonjour.
Ah, je dis bonjour, parce qu'en fait, je me suis dit que tu vas même pas parler de moi.
Non, mais t'as vu cette intro, comme je l'ai faite rapidement et tout.
Oui, rapidement, en 10 minutes. Alors donc...
Le genre, c'est du super-héros. Et l'autre mot qu'on a trouvé, attention, c'est prononcé dans ce mot, méga crossover de la mort qui tue.
Méga crossover de la mort qui tue.
En un seul mot.
Pas mal. Voilà. Pas mal.
C'est le genre. Ensuite, que nous raconte cet Ultimate
Spider-Man.
Donc, qui est sorti il y a un petit moment, vous devriez peut-être le retrouver encore en kiosque s'il n'y a pas de nouveau Ultimate Spider-Man hors série qui est sorti entre temps.
Alors, pour faire simple.
Oui, ce que ça raconte.
Ce que ça raconte. Il me semble bien que Reed Richards a disparu.
Ouais.
He's dead.
Ouais, il est mort.
Il est mort.
D'ailleurs, les 4 Fantastiques ont été séparés, sachant que l'un d'entre eux, la Torche Humaine, se retrouve dans 7 à la maison chez Spider-Man. On est vraiment dans la même période temporelle.
Oui, mais en fait, il est visiblement pas tout le temps chez... il est un peu revenu chez sa sœur.
Ouais, des fois, il se voit... Ah, sa sœur, c'est sa sœur, quoi.
Ouais. Sinon, quand même, gros truc pour Ben...
Oui, oui. Alors oui, dans l'épisode précédent de Ultimate Spider-Man hors série, on a vu que
il se passait un truc sur Ben.
Il se passait un truc, ça se finissait comme ça. C'est non, il t'arrive un truc trop terrible et on savait pas quoi. Maintenant, on sait. Bah, il a son pouvoir qui a changé, il peut redevenir humain, mais il est toujours aussi fort. Enfin, en gros, il a perdu tous les inconvénients et il a récupéré tous les avantages.
Et en fait, il fait de la lumière aussi.
On savait que les grands. Que dans la première partie de cette trilogie de crossover, on savait que des méchants étaient arrivés et commençaient à attaquer toutes les grosses entreprises scientifiques, en gros, de l'univers Ultimate. Et c'est tout. Parce que, comme on l'avait dit, c'était très bourrin, le précédent.
Ouais. Et en fait, il y avait. On a aussi essayé de tuer Spider-Man.
Oui.
Et Spider-Woman va l'aider.
Oui.
Spider-Woman qui n'est qu'un clone de Spider-Man.
Qui est le Ben Reilly. Mais bon, là, si on mélange, commence à mélanger les différents univers Marvel, on ne va pas s'en sortir. Surtout si on parle sur la saga des clones de l'univers Marvel, que personne n'a compris. Donc, voilà. Et donc, bah, ils essayent de savoir pourquoi. Et ils partent sur de l'enquête. Sachant qu'en parallèle, Rick Jones, qu'on avait entreaperçu dans un Ultimate Spider-Man et qui était parti dans un truc de lumière parce qu'il avait eu plein de pouvoirs, on ne sait pas pourquoi, va revenir. Et va se retrouver confronté à, comment s'appelle-t-il, le Ultimate Marvel.
Ouais.
Voilà. Pour. Apparemment, il a un message des extraterrestres à faire passer.
Mais visiblement, ils n'avaient pas un forfait de texto illimité et ils ont resté très, très.
Ouais.
Simple.
Simple.
On va vous détruire.
Voilà. Bon, c'était un bon résumé. Parlons du dessin de Rafa Sandoval, que j'ai qualifié de élégant.
classe.
Je trouve vraiment ce dessinateur, il a une élégance, surtout dans les cheveux dans le vent, les traits des flammes de la torche humaine, les décharges d'énergie. Je trouve ça très joli. Il y a vraiment quelque chose d'élégant. En plus, les couleurs dans un ton légèrement pastel. C'est-à-dire que c'est flashy, mais... Parce que bon, on est dans du flashy, hein, on ne peut pas le nier. Mais... pas tant que ça, on a une sorte d'unité colorée qui passe très très bien, un ancrage tout sans subtilité avec plein de pleins et de déliés très très bien gérés. D'ailleurs, on peut peut-être citer, si tu arrives à trouver le nom du coloriste et de l'encreur.
Matthew Wilson et l'encreur Roger Bonnet.
Voilà, donc
sans doute, oui. Ils sont deux au dessin.
Bref, j'ai trouvé ça fort sympathique, graphiquement.
Et puis, bon, en plus, il y a plusieurs doubles pages qui sont vraiment superbes.
Oui. Franchement, très sympa. Arrivons au scénario.
Et
vas-y.
Bof.
Bourrin. C'est du bof bourrin. Je crois qu'on a déjà fait cette association bof bourrin.
Mais je crois que c'était pas dans le même sens. Je crois que c'était toi qui as dit bof et moi bourrin.
Ouais, je sais plus. Bof bourrin. Bon, en gros, bien entendu, tous les personnages, à chaque fois qu'ils vont se rencontrer, vont se taper dessus. Ça a le mérite d'être simple. La seule subtilité que l'on peut avoir, c'est l'enquête de Spider-Woman, qui essaye de se faire embaucher en tant que consultante chez Roxxon, l'entreprise qu'il a clonée et qu'il a créée, et va donc découvrir toute une bande de super génies qui, eux aussi, sont embauchés en tant que consultants. On a cette subtilité-là. Et bien sûr, à la fin de l'épisode, nous savons qui étaient les super grands méchants. Enfin, on sait. On sait qui ils sont, on ne sait pas pourquoi.
C'est ça. On va vous détruire.
Ouais.
Mais on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas quand. Mais bon.
Voilà. Franchement, voilà, c'est de la baston, c'est de l'action, mais ça manque un peu de subtilité. C'est du gros big bang boom.
C'est efficace, hein, parce qu'avec le dessin, ça claque.
Voilà. Franchement... passe un moment. Par contre, j'étais un peu déçu par les couvertures qu'ils n'arrêtent pas de nous vendre comme fantastiques de G. Scott Campbell, qui pour le coup, je trouve pas génial. J'ai connu Campbell plus inspiré. Là, bof.
Bof. Ça manque un peu d'originalité, quoi.
Ouais, et puis il fait des personnages beaucoup trop élancés, beaucoup trop... Enfin, on dirait qu'ils font... Tu sais, on dirait que t'es en train de regarder un programme... comment ? Un programme 16/9 sur une télé 4 tiers.
Ah, c'est un peu ça. Voilà. C'est un peu ça.
C'est sympa, l'avantage c'est que ça ne coûte pas trop cher.
5,40€ chez Panini Comics.
Voilà. Par contre, c'est un petit peu mensonger sur la couverture.
Ouais, là c'est.
On nous écrit.
Saga complète.
La saga complète d'un truc qui est la suite directe. Alors, effectivement, c'est une mini-série complète. C'est donc Ultimate Mystery, qui fait suite à Ultimate Enemy, c'était la précédente, il me semble. Donc c'est sympa, hein, mais même si c'est une mini-série complète, c'est pas vraiment une saga complète. Surtout qu'une saga complète qui finit par, on peut lire la phrase, les derniers mots, parce que je pense que les derniers mots sont expliquent bien.
Il a dit que c'était pas fini.
Voilà. Ouh, la saga complète qui finit par, il a dit que c'était pas fini.
À suivre dans Ultimate Doom.
Voilà. Donc oui.
Voilà, on se dit tiens, je vais acheter un truc, ça a l'air. Enfin, bon, un novice, ça dit oh, saga complète, il va se dire je vais avoir toute l'histoire dans un seul bouquin. Ben en fait, non. Il y a aussi c'est ça. Du c'est du vol. C'est pas Nini, quoi.
Bon, on exagère un peu, mais c'est vrai que c'est un petit peu abusé le saga complète.
Non, parce que c'est un truc qu'ils utilisent plein de fois, tu vois, parce que c'est aussi sur le Thor.
Oui, mais le Thor, c'est vrai, c'est une saga complète pour le coup.
Pas vraiment, parce que tu sais que ça continue.
Oui, mais bon, dans ce cas-là, tu fais jamais de saga complète dans les comics.
Non, tu sais que ça continue, pourquoi ? Parce que là, c'est que le début, c'est qu'il rentre... Fin...
Oui, non, mais la suite, c'est une préquelle, quoi. Enfin, voilà.
Bon. Oui, enfin, bon, le mot saga complète, faudra peut-être qu'il l'explique mieux, quoi.
Ouais, hein ? Bon. Saga complète, mais presque, enfin, ça rentre pas dans le médaillon, quoi, si tu veux mettre tous les mots.
Eh bien, dans ce cas-là, tu mets pas le médaillon.
Ouais. En presque neuf. On change totalement de registre. Quoique, tu sais, avec les X-Men, c'est le nom de leur vaisseau
Ouais, le Blackbird.
Mais Blackbird n'a rien à voir. Blackbird de Pierre Morel. Chez l'employé du mois.
Au prix de 14,90€. Alors ça...
Ça, au niveau du genre, nous avons appelé ça de l'anticipation sociale. C'est joli.
C'est joli, ça, comme terme.
Blackbird nous raconte que dans un monde qui est le nôtre, d'un coup, une loi passe qui, en fait, tout en abrogeant le prix unique du livre, interdit la publication sans passer par un organe de publication. Donc, l'autopublication est devenue interdite. Et on va voir comment est-ce que cela est vécu par une bande de jeunes qui veulent devenir artistes et qui font un fanzine pour faire leurs armes, comme beaucoup de jeunes font. Et qui, pour le coup, deviennent hors la loi. Et on va suivre un petit peu leur réaction face à ça, sachant que l'un d'entre eux vient d'avoir un contrat pour signer sa première BD. Dans leur groupe de fanzine, il y en a un qu'ils ont viré parce qu'il était un peu trop radical. Et on voit comment tout va se gérer vis-à-vis de ça. Pour l'histoire, il faut savoir que Blackbird a été publié d'abord sous forme de fanzine que l'auteur envoyait par la poste. La série ayant été finie, l'employé du mois a proposé de l'éditer avec la fin, qui n'avait pas été envoyée, il me semble, encore par fanzine, qui l'a envoyée après. Au niveau de la forme, on peut aussi noter que c'est une belle édition. Ça fait penser à Asterios Polype dans la forme, avec cette couverture en carton. Et qui, en plus, est une forme qui... y a une mise en abîme, vu que c'est une forme qu'on trouve dans... C'est un objet qu'on trouve dans la BD. Bon, on a parlé du côté totalement objectif sur ce que c'est, etc. Parlons maintenant du dessin, car... C'est une bande dessinée plus à scénario qu'à dessin. Et donc parlons du dessin, que j'ai trouvé cool.
Bien.
Putain, alors on n'est pas en extase, mais apparemment, ça passe bien. C'est un dessin assez jeté.
Ouais, voilà, c'est propre, quoi. C'est propre, c'est efficace.
Voilà.
Alors, c'est sûr qu'on ne va pas rester, je pense, en émerveillement devant le style. Hein, Mais voilà, il permet une bonne narration et basta, quoi.
Puis il y a un côté assez jeté, on n'a pas des cases bien dessinées qui auraient fait propre, etc., qui vous rentre aussi dans le côté un peu fanzine, puis ça lui permet de travailler sur peut-être aussi des bordures de cases plus épaisses, sur certains besoins. C'est chaque chapitre est bien délimité par un dessin d'un des personnages sur son skate. Le dessin est efficace, colle très très bien, c'est du noir et blanc quand même, faut le signaler. En vrai, c'est quelque chose qui... J'ai bien accroché, quoi. Puis tous les personnages ont l'air cool et sympas, en fait. Voilà.
Ouais.
Passons au scénario.
Alors là...
Effrayant.
No pasarán.
No pasarán. C'est assez terrible parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui pourrait arriver.
C'est que c'était pas si loin.
Les personnages... ont des réactions qui, au début, nous font sourire. Ils vont commencer à faire des petites choses pour dire « mais on s'en fout, de toute façon, je veux dire, ils nous embêtent avec ce fanzine, mais c'est pas grave, on continue comme si de rien n'était. » Sauf qu'il va y avoir un événement qui va faire qu'ils vont commencer à devenir la cible des autorités et que l'opposition vis-à-vis du fanzina va devenir de plus en plus radicale. Et les gens n'en ont rien à foutre. L'opinion publique n'en a rien à foutre. D'un autre côté, on interdirait les fanzines maintenant.
On n'en aurait rien à foutre.
Sauf les lecteurs de fanzine et ceux qui pensent aux conséquences que ça a. Parce qu'effectivement, le fanzina ne touche pas beaucoup de monde. Il y a peu de personnes qui lisent du fanzine. Le principe, c'est que c'est de l'autopublication. Et donc, quand les personnages se rendent compte que les libraires ne veulent plus, n'acceptent plus d'avoir le fanzine chez eux parce qu'ils peuvent avoir des problèmes avec la justice.
Oui, mais du coup, moi je disais, on n'en a rien à foutre dans le sens où maintenant, t'auras Internet.
Ouais, il y a Internet, effectivement. Qui serait cette zone de liberté, mais t'es d'accord que lire sur papier, te confronter à la problématique de lire sur papier.
Attends, je prends des notes.
Ouais, et te confronter à la problématique de lire sur écran, ce n'est pas la même chose. Je ne dis pas que c'est moins bien, je te dis que c'est pas la même chose.
Comme tu te rattrapes, oh là là, et t'étais à deux doigts de le dire.
Non,
je me rappelle. Tu étais juste au bord de la limite là, de faire. Et ouais, en fait, lire une BD sur papier, c'est bien. Sur le numérique, bof.
Attends que j'ai mon Asusipad Transformer. Envoyez-nous des sous. Je m'achète un Asusipad Transformer pour lire de la BD numérique. Tu verras comme ça sera trop bien pour lire des BD. Donc, le principe, enfin moi, c'est ça. C'est... Tu as une certaine frayeur. Et puis surtout, tu vois que la réaction des personnes qui sont frustrées de ne pas pouvoir faire ce qu'ils faisaient va devenir de plus en plus exagérée. Ça commence, ils font des trucs marrants, ils envoient de l'encre sur les gars qu'on fait la loi contre ça. Après, c'est plus de l'encre qu'ils envoient.
Oui,
Ça commence à
mais
devenir radical et violent.
ben, ça, non, ça devient radical le jour où quand même il les arrête pour ça, quoi.
Oui.
Et
Oui, mais tu as une
c'est donné.
opposition qui se crée et tu as une sorte de montée de la violence, hein, des deux côtés.
Ben, enfin, là, je vais me permettre un petit parallèle. C'est comme quand tu regardes dans Battlestar Galactica, tu vois, la saison 3, où ils sont sur New Caprica avec les Cylons, quoi. D'un côté, tu te dis, t'as le côté Cylon où, bon, ben, eux, ils sont juste là, ouais, on veut que ça se passe bien, les gars. Et puis, t'as ceux qui sont en train de se faire exploser. À la limite de l'intégrisme. Mais d'un côté, quand tu regardes les humains, tu te dis, ouais, mais ils ont raison.
Je trouve d'ailleurs qu'il y a ce regard-là, le député qui a fait passer la loi, quand il interroge et qui donne son argument pour l'abrogation du prix unique sur le livre, son argumentaire tient la route et je pense que quelqu'un pourrait y croire. Enfin, je veux dire, il n'est pas présenté comme. L'opposition n'est pas présentée comme les méchants salauds qui. Enfin, t'as pas le côté méchant. D'ailleurs, on les voit très peu. Les politiques qui ont fait ça. Et à chaque fois qu'ils sont présentés, ils sont présentés plutôt sous un beau jour.
Et comme quoi, enfin, quand tu enrobes bien le truc, tu peux faire
Oui,
passer n'importe quoi,
mais
hein.
parce qu'ils ont, ils donnent aussi. J'ai pas l'impression qu'ils se présentaient comme ayant de mauvaises intentions derrière. C'est ça qui est terrible. Et bref, j'ai trouvé ça intéressant sur la façon dont ça montait.
Mais ça permet, enfin, je trouve que c'est une bonne réflexion.
Ouais. Tiens, d'ailleurs, j'ai entendu j'aimerais juste revenir un petit peu sur la fin sans la révéler, hein, pour savoir ce que tu en as pensé. Parce que c'est sur un autre podcast BD qui s'appelle Radio Grand Papier, qui d'ailleurs qui a des liens avec la structure l'employé du mois vaguement, enfin vaguement, hein, qui faisait une critique où ils n'étaient pas forcément d'accord sur la fin. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la fin de Blackburn? Ah! Ah, tu rouvres le bouquin, genre merde. C'est quoi déjà la fin de
Non,
Blackburn?
non, c'est juste pour être certain d'avoir bien eu. Pour moi, la fin, voilà, non, c'est bon, j'ai bien le bon souvenir. Pour moi, c'est une fin logique, quoi.
C'est-à-dire, est-ce que ça va
Enfin,
aller
quand
mieux? Est-ce que ça t'a laissé sur ta faim? Est-ce que. En gros, les gars, certains disaient que ils trouvaient que ça manquait d'une suite, que ça les laissait totalement sur leur faim.
La lutte continue, quoi.
Ouais, bah moi ça m'a pas laissé sur ma faim justement. Je trouvais que c'était une très bonne fin et que bah ouais, pourquoi pas une suite, mais je vois pas l'intérêt parce que je pense que ce que Pierre Morel avait à dire sur le sujet a été dit en fait. Et que on sait comment ça va évoluer et comment ça va changer. Alors pourrait y avoir des rebondissements, etc. Mais on n'est pas dans un feuilleton, quoi, c'est pas l'intérêt.
C'est pas un soap.
Voilà. Donc Blackbird, j'ai beaucoup aimé.
Ouais, pareil. En fait,
C'était, oui, on a oublié le meilleur du mieux il
il
y
y
a
a
deux
15
semaines.
jours, on a oublié
Ouais,
le meilleur du mieux.
on va essayer de pas oublier cette fois-ci. Il faut que je le mette dans le programme, comme ça j'oublierai pas. À chaque fois j'oublie de
Ah
l'écrire.
ouais, en fait, tu fais n'importe quoi dans ton
Ouais, c'est
boulot,
ça.
quoi.
Bon, je crois qu'on a fait le tour du presque neuf pour cette quinzaine,
Travailler avec des
vu que de toute
amateurs,
façon
alors.
on est dans la semaine du rattrapage.
Bleh.
Et nous attaquons la bande dessinée la plus longue du monde.
Bleh.
Épictète.
Bleh. Chez Soleil.
De Guillaume Bianco et Al Gozzino.
Al Godino.
Voilà. C'est une BD, quand on dit la plus longue du monde, nous ne mentons pas. C'est un argument de vente
C'est
d'ailleurs.
un argument de vente, hein, c'est.
Elle doit bien faire 30 cm de long.
D'ailleurs, en fait, bonne question, mais ça doit être super chiant à stocker, en fait.
Oui, bah d'ailleurs le prix, hein, je pense, s'en ressent un petit peu parce que c'est un format un peu bizarre et qu'il n'y a pas tant de pages que ça. J'avais été très intrigué par cette bande dessinée parce que je l'ai vue à plusieurs reprises en boutique et j'ai résisté. Et puis à l'occasion d'une séance de dédicace que finalement je n'ai pas eue, mais c'est pas grave, je l'ai acheté, j'ai craqué. Pour le genre, nous avons dit que c'était de l'humour en strip. Car effectivement, cette bande dessinée, ce sont des strips d'humour.
On l'a dit ça?
Ouais. Ouais, on a dit ça. Qu'est-ce qu'on est fort quand même. Ah, tu es en train de changer un mot au dernier moment.
Allez, vas-y, meuble un peu, là, je
meuble un
réfléchis.
peu. Alors, Guillaume Bianco est connu pour sa bande dessinée Billy Brouillard. Et enfin, principalement ces derniers temps. Et puis aussi Ernest et Rebecca, dans un style un peu plus lisse, un peu plus, en BD jeunesse. J'ai été très surpris de trouver cette bande dessinée chez Soleil, parce qu'on est vraiment dans de l'oubapo. Et de l'oubapo, en théorie, ça sort pas chez Soleil. On est bien d'accord, la BD intelligente qui réfléchit, non mais qu'est-ce que ça va foutre chez Soleil? J'achète pas des BD Soleil pour réfléchir, moi, merde!
Putain, les mecs qui trashent là. Là, je pense quand même que tu envoies. Là, tu non, tu dénonces. C'est bien. Tu sais quoi? On est encore en Blackbird. Tu
Ouais.
révolutionnes. Non, pas Saran.
Non, pas Saran.
Non, mais
Bon.
attends, on va pas faire des BD intelligentes. C'est Soleil quand même, non?
Ouais, c'est quoi ce
Oh.
bordel? Où passe tous nos repères? Surtout qu'on est médisants, parce que je suis médisant, hein, profondément. Parce que il y a eu une période Soleil où il n'y avait que de la fantaisie à deux balles, et c'est bien révolu depuis quelques années maintenant. Oui, quand même. Oui, quand même. Attends, non, tu t'es d'accord. Avec tous les trucs qu'ils font, la collection Métamorphose, tous ces tests, etc. Enfin, tous ces trucs nouveaux qui essaient de produire du neuf. Il y a toujours de la fantaisie de plus ou moins bonne qualité. Là, c'est une
Ouais,
question de
bah,
goût.
enfin, disons quoi, tu veux dire surtout, c'est qu'ils ont compris qu'en mettant 40 nouveautés fantasy par mois, c'était un peu trop. Ils se sont dit, bon, on va mettre que 20 et on va mettre 20 de nouveaux trucs.
Et oui, et puis ça leur permet de mieux les accompagner peut-être et que ce soit de la meilleure qualité.
Ou de faire encore plus de brousouf, en fait.
C'est un peu le but d'un éditeur, on va pas lui en vouloir si son but c'est de faire des sous.
Oui, mais en même temps, il a un club de rugby à subventionner, quoi. Pas facile, quoi.
Donc Épictète.
Bon, en même temps, il y a 15 jours, normalement, Toulon jouait contre Montpellier pour l'accession sur les playoffs. Alors, hein? Je connais
Ah.
pas le résultat, mais bon, j'ai raté le match à cause du podcast. Voilà.
Ah, bravo. Donc nous allons suivre la vie d'Épictète, un chien. C'est un chien, on dirait un chien.
Un rat.
Bon, enfin c'est un truc animalier
Mais il vient de l'amibe.
qui vit
Puis
dans ses
après, il a été
cases.
en ver, puis ensuite en poisson, puis une sorte d'amphibien, et puis en cro-magnon, et enfin en chien.
Dépressif.
Bah ouais, dépressif.
Parce que le pauvre, il est enfermé dans une case et il aimerait bien sortir de cette case. Et son but, c'est de s'en échapper. Et tout cela n'est que prétexte à faire des réflexions sur la bande dessinée, sur l'enfermement dans la bande dessinée, sur ce qu'est la bande dessinée, ce qu'est le passage d'une case à une autre, et comment est-ce que ça se fait, sur qu'y a-t-il dans cette gouttière entre les deux cases? Qu'est-ce donc? Et puis aussi sur le style graphique. Et donc, en brisant le quatrième mur, non-stop d'ailleurs, Épictète s'adresse à nous. Pour nous demander ce qu'on en pense et comment est-ce qu'on pourrait l'aider à sortir de là où il est. C'est joliment dit?
C'est joliment dit.
Mais
Qu'est-ce que
j'aime
tu as
bien que tu me
pensé
dises.
sur le
Vas-y,
dessin?
ouais, tu me dis souvent que c'est joliment dit,
Ouais, mais bon,
j'adore.
faut que j'arrête parce qu'après, sinon, nos auditeurs vont dire, attendez, il arrête pas de faire des compliments à
Le
Kay, ils couchent ensemble, c'est
dessin.
possible.
Sur le dessin, j'ai mis jeter.
Et moi, j'ai mis case. Du coup, en enlevant strip tout à l'heure, j'ai mis case parce que c'est.
Ce sont des cases jetées.
Non, c'est surtout c'est parce qu'il y a un travail qui est très très intéressant, je trouve, sur la case. Et au niveau de la narration aussi, vis-à-vis de la case, quoi. Tout à l'heure, quand j'en ai parlé, justement, je retrouvais un. Je t'ai cité un truc de d'Esner sur justement le travail avec la case qui est le mur qui enferme la liberté. Ben
Ouais.
voilà, j'ai quasiment Épictète, c'est le même travail sur la case avec ben, tout le contour. Qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que c'est un mur? Est-ce que c'est une
Comment en
prison?
sortir?
Comment en sortir? Si j'en sors, comment ce sera? C'est.
N'oublions pas qu'Esner est un spécialiste pour justement ne pas faire dessiner ses cases. Ouais.
Eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui.
Et puis bah, il y a tout le côté sur le style graphique. D'ailleurs, le style graphique des premières planches n'a rien à voir avec le style graphique qui est choisi à la fin.
Mais c'est parce qu'il s'est cassé le poignet.
Et puis il y a aussi tout un humour sur le sur la sur les pratiques en bande dessinée. Il explique qu'un auteur est mieux payé en faisant de la couleur quand il fait du noir et blanc. Alors il explique que sur un strip où il fait juste deux couleurs à deux balles, il sera aussi bien payé
En
et que
faisant la
donc
moitié du travail.
alors qu'il a arnaqué son éditeur. Il y a tout un côté sur les pratiques, un peu un cynisme derrière. Mais là on est déjà sur le scénario.
Ou en fait une sorte de clairvoyance aussi, peut-être qu'il est un petit peu, voilà, il est au courant de ce qui se passe.
On
Hein.
est déjà sur le scénario et mon mot pour ton mot pour le scénario.
Drôle.
En abîme. Oui, parce que c'est drôle, on rigole forcément.
Surtout quand la mise en abîme se produit. géographiquement.
Oui, ils se moquent un peu de nous. Le format est original et passe très bien parce qu'en fait, on a vraiment des strips qui profitent de leur longueur. Je pense d'ailleurs qu'ils devraient faire un crossover Épictète et le Tekel le plus long du monde. Tu te connaissais cette BD, le Tekel le plus long du monde? Ça passait dans Spirou, c'était une BD de Thierrier, c'était débile à souhait.
Tu m'en as parlé, je crois, déjà.
Voilà. Et qui irait très très bien dans ce format de livre. Un crossover serait génial, je pense. Ouais, non, on a un scénario qui, bon, pour peu qu'on s'intéresse un minimum à la bande dessinée, on retrouve un peu ce qu'avait pu faire du Marc-Antoine Mathieu en travaillant sur la case, etc. Mais plus avec une recherche sur l'humour.
Plus, ouais, plus, enfin, plus humoristique.
Oui, parce que Marc-Antoine Mathieu, c'est pas drôle. Enfin, tu ris jaune quoi quand tu dis Marc-Antoine.
Voilà, tu peux sourire, mais je pense pas rire aux éclats quand même.
Voilà. Et donc, il y a une réflexion, etc. Maintenant, la grande question que je me pose, c'est est-ce que ça marcherait autant avec quelqu'un qui n'est pas un gros lecteur de BD ? Est-ce que si tu fais dire ça à quelqu'un qui lit un peu de BD sans plus, comme ça, est-ce qu'il apprécierait ? Est-ce que si on fait dire ça à Adrien, est-ce qu'il va trouver ça drôle ?
C'est jamais de nom.
C'est vrai.
Donc, si on fait lire ça au mec qui ne lit jamais de livre, est-ce que ça va lui plaire ?
Sauf The Boys.
Sauf The Boys. Ouais. Est-ce que ça va lui plaire ? Bah alors là, je serais à peu près catégorique en me disant que non.
Voilà. Donc, ça reste quand même pour un public qui aime déjà la bande dessinée et qui connaît déjà la bande dessinée. Donc, voilà. Épictète.
Bon, en même temps, c'est quand même. Enfin, je trouve que c'est quand même. Une grosse prise de risque aussi de faire du strip, quoi. Parce que c'est vraiment pas la forme la plus évidente.
Hein. Oui, non, le strip, c'est super dur.
Alors, c'est vrai que, bon, il prend quelques libertés en ayant, on va dire, un strip qui se prolonge sur presque 6-7 cases.
Ce qui est beaucoup hein, pour du strip.
Ou même sur la double page, donc on arrive presque à 13-14 pages, enfin 13-14 cases, mais voilà, le strip, je trouve, c'est vraiment le format qui est le moins évident. Et pourtant, ben voilà, je trouve qu'il passe l'épreuve avec brio, quand même.
Ouais, beaucoup aimé Épictète.
Et puis bon, on commence à l'aimer ce personnage.
Ouais, ouais. Une suite peut-être. Bon, par contre, je vous dis tout de suite, à ranger dans sa bibliothèque, mais c'est vraiment super emmerdant. Franchement, c'est...
Ben, en fait, tu peux le faire, tu le plies en deux, ça fait le livre le plus court du monde.
Le plier en deux, ça fait très très mal. Combien est-ce qu'il coûte chez Soleil ? Tu as le prix peut-être sur le petit rabat qui avait collé, qui permettait de le fermer, que tu as posé je ne sais où.
Alors là, si c'est arrivé un autre jour, parce que là, j'y ai rien touché aujourd'hui.
Bon, bah, on ne sait pas combien ça coûte, mais ça doit pas être très très cher. Donc, et comme c'est dans un format totalement qu'on connaît pas.
Et donc là, il a perdu son rabat, et en fait, nerveusement, il est en train de
regarder partout.
De gauche à droite dans toute la pièce en se disant oh, où est le rabat ? Où est le rabat ? Non, ça va aller. Ça va aller. Non, t'inquiète pas, tu vas le retrouver après. Ça y est, il est stressé. Voilà, on l'a stressé.
Si, on passait à un autre livre.
Vous savez que quand on voit la sélection d'aujourd'hui, on a quand même choisi du truc, c'est lourd, quoi. Hein.
Lourd. Quel sens, lourd ?
Dans le sens lourd, c'est qu'il y a du... Il y a du choix politique aujourd'hui.
Voilà. En plus, on n'a pas... Je cherche des mauvais trucs, quoi. Ouais, il y a du lourd. Alors, vous comprendrez quand nous parlons de lourd que nous parlons de bonnet F. Et quand nous parlons de bonnet F, au moins F. Hein,
F bien, mais F bien tassé, quoi. Voilà, c'est serré, là.
Nous parlons de la bande dessinée à venir. On vous laisse le suspense.
Pas tout de suite, hein, c'est celle d'après.
Car pour le moment, nous ne sommes pas dans les bonnets.
Nous sommes dans les gants.
Dans les gants. Avec. Champion Z de Eddie Vaccaro et Aurélien Ducoudray
chez Futuropolis.
Ouais. Que nous compte cette bande dessinée qui est une bande dessinée historique de sport.
Ouais, une bande dessinée donc qui raconte l'histoire en fait d'un boxeur, Battling Skiki, qui a été champion du monde de boxe en 1922, qui est en fait l'histoire d'un... Ah, celle-là aussi, tu l'as fait dédicacer ?
Oui.
Mais attends, t'as rencontré tout le monde, toi, ce jour-là.
La classe.
La classe, hein. Donc, qui est né, en fait, au Sénégal, dans la colonie française, et qui, ensuite, est devenu boxeur professionnel, jusqu'au titre de champion du monde des poids moyens.
qui était très 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 controversé parce que c'était un noir. Et un noir champion du monde, champion de France déjà, ça choquait.
Il a battu Georges Carpentier quand même.
Mais champion du monde, oui, ça a été. Ce combat contre Georges Carpentier a été apparemment très très controversé du fait de sa victoire.
Ouais.
Voilà, sa victoire a été controversée. Il y en a qui pensent qu'en fait il l'a pas gagné parce qu'il aurait fait un coup bas. Mais bon. Donc champion Z pour le dessin.
Sépia.
Carte postale. Ah, j'ai failli dire sépia.
Ah ben tu vois, voilà, je te l'ai pris.
Mais j'ai dit carte postale.
Ben c'est ça, ouais. Carte postale, en fait, les vieilles cartes postales de nos grands-parents, quand tu regardais les paysages, t'as ça.
Avec un style très crayonné. On voit les traits de crayon, c'est très joli, c'est doux.
C'est pas joli, c'est magnifique.
Oui.
Voilà. C'est agréable. Et puis pour les Marseillais, on reconnaît même au moment la gare Saint-Charles.
Voilà. Ouais. Voilà. Bah de toute façon, ils pouvaient aller sur place pour faire les dessins, Eddie Vaccaro. Donc non, franchement, très 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 joli comme dessin. Alors effectivement, on reste dans quelque chose d'assez classique, mais j'ai essayé de trouver à quoi le rapprocher. Ça m'a fait penser un petit peu en un peu plus réaliste du Duchazo. Donc Duchazo, dont on avait parlé il y a longtemps maintenant de ce qu'il avait fait avec Velman sur les films de Méliès jamais tournés. Il y avait un nom à rallonge que j'ai déjà. Le Diable amoureux et autres films de Georges Méliès jamais tournés.
C'est ça. La seule question quand même que je me poserais, c'est. Alors ça, tu vois, c'est... faudra que je me renseigne. Est-ce qu'en 1907, la gare Saint-Charles avait déjà cette tête-là?
En fait, tu fais une fixation sur géographique.
Mais ben oui, c'est géographique. Mais excuse-moi, voilà. Enfin, tu connais le décor et tu te dis, est-ce qu'en 1907, c'était déjà ça?
Il est possible que, en tout cas, au niveau du toit, ce soit déjà ça. Mais intéressons-nous au scénario de cette bande dessinée.
Alors, donc là, je vais reprendre en fait deux termes que j'ai déjà utilisés dans des émissions précédentes.
Deux termes.
Ouais, mais en fait, je les ai mis dans l'autre sens.
C'est une expression, c'est.
Eh ben en fait, deux.
Vas-y.
Moi, c'était de. Il y a 3 ou 4 épisodes, c'est de l'ombre à la lumière, mais là, en fait, c'est de la lumière à l'ombre.
Ouais, on va dire que c'est une expression, ça passe. Moi, j'ai mis captivant, tout simplement. Parce que c'est captivant, on a envie d'en apprendre plus, on a envie d'en savoir plus sur la vie de Battle City, qui en gros part du Sénégal. Et il va au bluff, en fait, parce que c'est un beau parleur. C'est un beau parleur, il y va au bluff pour se retrouver sur un bateau qui va l'emmener jusqu'en Europe. Et la boxe, il découvre ça un peu par hasard, en fin de compte. Et c'est amené de façon... ça n'arrive pas de suite. La boxe arrive assez tardivement, en fin de compte, dans le bouquin.
Dans le bouquin, oui, tout à fait.
Parce que, vraiment, on s'intéresse au personnage et pas seulement au sport qu'il peut faire et à la façon dont il va s'intégrer. Quand on le voit arriver à Marseille et que... on demande à la personne qui l'accompagne de payer une taxe sur les marchandises étrangères parce qu'il y a le gamin. Et lui dit non, mais je suis pas une marchandise, je suis français, je viens des colonies, etc. Il a fait non, non, mais le nègre, c'est de la marchandise étrangère, quoi. Enfin, c'est. Il y a tout un portrait d'une époque, en fin de compte, qui est très, très intéressant. Et puis, sur la question de comment est-ce qu'on s'intégrait quand on était noir en France à l'époque, sachant que j'ai l'impression, quand je lis, que l'intégration était sur le papier existante, mais dans les faits, non. Tu vois ce que je veux dire? Que on considérait que les Noirs étaient humains, ce qui est déjà pas mal à l'époque, hein, les Noirs étaient humains, mais ça c'est ce qui était écrit. Et que dans les faits, ça restait quand même pas pareil.
Ça restait même totalement différent. Enfin, imagine bien une personne dans les années 20 qui se mariait avec un Sénégalais.
Oui, ce qui arrive.
C'est ce qui est arrivé dans ma famille lointaine. Et les souvenirs dont on en parle, c'est que ça s'est pas très très bien passé. C'était plutôt difficile.
C'était ton ancêtre
Non, je pense pas que c'était Battling Siki en fait.
Parce que lui, c'était avec une néerlandaise qui s'est mariée. Pareil, bon, c'est bien passé au niveau de la famille, parce que le père de la néerlandaise en question est fan de boxe.
Mais je pense que ça devait pas être évident.
Et pourquoi de la lumière à l'ombre pour le scénario?
Alors, dans le scénario, parce que pour moi, il est... Tu pars de la lumière parce qu'il était heureux où il était au début.
Oui.
Et tu pars d'une... Voilà, tu le vois monter, quoi. il monte au fur et à mesure jusqu'à ce titre de champion du monde. Et à partir de ce moment-là, il va aller de mal en pis, quoi. Il va lui arriver tout et n'importe quoi. Ça va être une longue et lente déchéance. Alors, peut-être en partie à cause de ses actes à lui, mais aussi à cause d'une société qui est.
Oui, parce qu'il est quand même assez soupolaire.
Ouais, mais enfin, des choses qui aujourd'hui, voilà, seraient, à mon avis, révoltantes et on crierait au scandale dans quasiment tous les médias, tu vois, mais là, c'est normal, quoi. C'est la normalité. Et là, du coup, tu vois bien le contrepoint, justement, du changement de point de vue qu'on a par rapport à 2010 et 1920, quoi.
Qu'as-tu pensé du côté mythologique? Parce qu'il y a un côté mythologique. Au tout début, on voit la circoncision de Siki, qui ne s'appelait pas Siki d'ailleurs encore,
Non.
et le rêve qu'il a eu. Car, bon, je ne suis pas spécialiste, mais apparemment, c'est un rituel pour la circoncision. Le môme allait ensuite se balader dans le désert et était censé revenir après avoir eu une hallucination qui allait le guider sur sa vie. Qu'as-tu pensé de cet ajout à l'histoire? Est-ce que tu penses que ça apporte quelque chose? Est-ce que tu penses que c'est pas un peu artificiel? C'est le point qui m'a semblé le plus à controverse dans cette BD, en fait. Moi, j'ai bien aimé, hein, mais.
C'est une amorce de sa vie. En fait, il va avoir un choix à faire dans sa vie. Et enfin, pour moi, je l'ai compris comme ça. Il va avoir à faire un choix. Et je suis pas persuadé qu'il ait choisi le meilleur.
Celui de partir.
Le choix des armes, en fait, qu'il va utiliser.
Oui.
Il aura soit sa parole, soit ses mains.
Oui, surtout qu'on nous le présente comme quelqu'un de rusé, de malin, et qui au final, en fait,
Et même,
réussit en se battant.
oui, alors que, enfin, il y a même un épisode où, justement, quand il est arrivé à Marseille, le poème où, voilà, enfin, il récite le poème, il se fait traiter de chimpanzé, de nègre, de tout ce que tu veux, mais en même temps, si tu suis l'histoire que lui raconte, à la fin, il finit en disant bien que, voilà, le gagnant dans l'histoire avec les
Oui,
spectateurs, c'est lui.
oui, oui.
Et c'est là que, oui, il a un moment dû renoncer à une de ses armes pour utiliser la
La
mauvaise.
parole pour utiliser
Et
les...
enfin, moi, je trouve que c'est un peu annonciateur de son avenir parce qu'en plus, il refuse d'avoir son avenir avec je sais pas comment on peut appeler ça, les animaux mystiques.
Oui.
Et il lui propose de connaître son avenir, mais il veut pas le connaître. Alors du coup, il lui dit juste que voilà, il aura deux armes dans sa vie et il faudra qu'il fasse un choix.
D'accord.
Non, j'ai trouvé ça très intéressant, au contraire.
D'accord. Donc pour toi, c'est une
C'est
réussite.
un bon ajout et c'est un ajout où. Bah, je vais juste dire intéressant parce qu'on va pas dire plus d'autres mots pour faire.
Donc Champions Z chez Futuropolis, une très très bonne BD qui coûte la modique somme de, tu vas voir qu'il va pas y avoir le prix, j'ai oublié de les noter aujourd'hui.
20 euros.
Ah oh, super, il y a le prix.
20 euros. Surtout, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, il y a vraiment
Oui, rajoutons-le parce que c'est super important.
une vraie recherche, voilà, sur Batting Siki et aussi une explication d'Aurélien Ducoudray sur voilà, pourquoi ses choix, comment ça s'est passé. Et
Oui,
c'est vraiment
il
intéressant.
y a toute une partie textuelle très intéressante qui fait un peu making of avec un extrait aussi de l'autobiographie de Siki qui sont vraiment vraiment très sympas et ça donne envie d'en savoir plus.
Bah, disons que ça te permet de te faire un avis. C'est après, bah, chacun se fait le sien, hein. Mais très bon bouquin.
L, ouvrez la parenthèse, S, fermez la parenthèse.
De Bastien Vivès,
Tiens.
qui devient habitué de l'émission, hein.
Bah, enfin, il est là que pour la deuxième fois, c'est pas notoire Annelies encore.
Ouais, attends, non, 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 ça fait 3 fois déjà qu'on en parle de Bastien Vivès.
On a parlé pour quoi d'autre?
Les autres.
Ah oui, les autres gens, oui.
Ah.
Effectivement.
Donc 3 fois, et là ça fait quand même 2 fois en un mois, donc je
Ouais.
dis.
Donc Bastien Vivès, nous avons parlé de son Paulina, son dernier ouvrage qu'on avait bien apprécié. Nous allons parler de Elle, son premier ouvrage, sa première bande dessinée, quand il n'était qu'un petit minot.
Et là aussi, t'as la dédicace, mais.
Mais ouais, non, mais j'en ai profité, j'ai pris les trucs dans la foulée. Hein. Et dans un style graphique très différent. Nous allons d'abord parler du genre. C'est de l'intimiste romantique. On a été un peu du mal à définir le genre sur cette BD. Hein.
Pas évident.
Qui nous raconte quoi comme histoire, mon cher Thio?
Alors, on va suivre donc l'histoire de Charlotte, Qui est le personnage principal de l'histoire. Hein.
Non, c'est l'homme, le personnage principal de l'histoire.
Ah,
on n'est pas d'accord.
Ah non, c'est Charlotte.
Ah ouais, moi c'est comment il s'appelle? C'est Renaud, je crois.
Ouais, c'est Renaud.
Moi j'aurais dit que c'est Renaud le personnage principal.
Eh ben voilà, déjà on n'est pas d'accord.
D'accord,
donc...
on commence même pour le résumé à pas être d'accord. Ensuite, l'histoire de Renaud et Charlotte.
Et d'Alice, hein, comme
et
ça on aura fait les
aussi,
trois.
Voilà.
Puisque ça se trouve que quelqu'un pense que c'est Alice, hein, le personnage principal.
Ouais.
Donc de Charlotte qui est une jeune fille voilà, qui a son petit travail, son petit train-train, qui vient de se faire plaquer et qui croise un mec qui n'arrête pas de la suivre. Mais lui s'en défend. Et finalement, il va se retrouver invité à une soirée. Ils vont commencer à faire connaissance, faire des sorties ensemble. Et petit à petit, il va se créer, je trouve, un triangle amoureux qui est assez intéressant.
Et assez original. Parlons du dessin.
Alors...
Quel mot as-tu utilisé?
Super Vixen.
Gonflé.
Hey, on est raccord.
Bon, alors c'est vraiment les mots
voilà,
mal choisis.
C'est très réducteur, hein, je tiens à le dire tout de suite. C'est vraiment très réducteur parce que c'est vraiment pas l'essentiel de l'ouvrage.
Donc, j'ai voulu acheter un livre de Bastien Vives. Je suis tombé sur celui-là. La couverture m'a tapé dans l'œil, on va dire. Car il y a Charlotte qui a une... non, c'est pas Charlotte, pardon.
Non,
c'est
Alice.
Alice qui a une poitrine phénoménale, ne le cachons pas. Et qui est un des arguments de la bande dessinée, je pense. Mais il n'y a pas que ça. On n'est pas dans le style très qu'on a pu avoir dans Paulina, qui était un style. J'avais mis tâche comme mot-clé d'ailleurs pour Paulina, qui jouait d'un noir et blanc très très. On est dans un style un peu plus réaliste quand même, un peu plus détaillé au niveau du dessin, qui n'a pas la maturité qu'on peut avoir dans un Paulina effectivement. C'est vrai quand même. En 4 ans, qu'est-ce qu'il a vieilli?
Peut-être qu'il a beaucoup plus dessiné.
Voilà. C'est un style assez réaliste, un peu humoristique, qui passe assez bien. Thio, tu es en train de faire un blanc phénoménal.
Bah non, c'est que t'as arrêté de parler, c'est pour ça que tu fais un blanc.
Ah, donc si je m'arrête de parler pendant le podcast, on fait des blancs, c'est ça?
C'est ça.
Ouais.
C'est ça. Non, moi au niveau du dessin, j'ai trouvé ça... Bah, c'est assez inégal, on va dire, suivant les pages.
Ouais.
Au niveau des couleurs... les ombres sont pas sont vraiment trop marquées et au niveau du dessin des fois on est vraiment dans du réaliste, des fois vraiment dans du bon, bah, je sais pas, enfin sans être péjoratif, du manga quoi.
Ouais.
Mais c'est frais quoi, c'est frais. Mais
d'accord.
C'est vrai que le scénario je trouvais vraiment plus intéressant finalement que le dessin. Faut
d'accord.
Pas s'attarder là-dessus quoi.
Il y a un choix des couleurs qui est intéressant aussi, hein. Un travail sur la couleur que j'ai trouvé plutôt pas mal trouvé, travailler beaucoup sur des ambiances qui passent assez bien. Le scénario. Amourette.
Triangle amoureux.
Bon, on est dans une histoire qui peut sembler assez classique, mais qui en fait a un intérêt principal, c'est que l'on ignore les objectifs de Renaud. Renaud est présenté comme mystérieux et renfermé tout du long de l'histoire et on ne sait pas ce qu'il veut. On l'apprend en cours d'histoire, mais on ne sait pas trop. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt, c'est que ce personnage-là, bah, on se demande ce qu'il fait, ce qu'il veut, ce qu'il cherche. Parce qu'en gros, il rentre dans un groupe d'amis très soudés. Alice et Charlotte sont quand même les meilleurs amis du monde. Lui s'intéresse à Charlotte, mais la question, enfin, s'intéresse à Charlotte au départ, apparemment, quand même. Hein.
Oui, parce qu'il la piste, hein, quand même.
Voilà. Mais est-ce que c'est pas Alice qui lui tape un peu plus dans l'œil? D'un autre côté, vu la poitrine d'Alice, il a pas besoin d'être prêt pour qu'elle lui tape dans l'œil.
Tout le long de l'histoire, tu te poses la question de savoir qui va finir avec qui.
Oui.
Parce que tu t'en doutes, tu te dis, ça va finir.
Il va finir avec une des deux.
Il va finir avec une des deux, mais tu ne sais pas laquelle.
Et
sans
fin,
compter que
elle
aussi.
Et à la fin, j'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment
toujours
avec quelqu'un. C'est une impression, donc c'est pas vraiment du spoil, mais c'est l'impression que ça m'a donné, c'est que j'ai eu l'impression que. Parce que oui, il va finir avec une des filles, et à la fin, j'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment avec quelqu'un encore. Tu as ces images où tu le vois en retrait, d'ailleurs sur la couverture c'est pareil, hein. Il est en retrait mais il reste central. Hein.
Ben pour moi, justement, il serait avec les deux.
Ouais.
On en revient au triolisme, hein, on en avait parlé tout à l'heure.
Oui.
Mais je pense que voilà, ça revient à une sorte de ménage à trois.
Ouais. Donc,
Une sorte de relation qui serait quand même. Je cherche le mot et je l'ai plus là.
Ouais.
Vas-y, sois mort de rire tout de suite,
Non,
crache le
mais
morceau.
c'est du private joke. Nos auditeurs ne vont rien comprendre. Donc, je lâche la blague. Je te lâcherai tout à l'heure. Tu rigoleras.
Ah, mais attends, trouve-moi. Enfin, tu sais, une relation quand c'est purement physique. Platonique!
Platonique, oui.
Ah, putain, je cherchais le mot.
Quand c'est purement physique, platonique, tu voulais dire
Non,
l'inverse.
purement. Enfin, justement,
Pas physique.
qu'il n'y a pas de physique, quoi.
Ouais.
Et je pense que c'est presque un trio qui serait voilà, dans une relation totalement platonique avec un amour sincère mais qui serait dénué d'intérêt physique.
Est-ce que tu crois que le fait qu'il ait mis un étudiant en dessin en avant, est-ce que Bastien Vivès n'est pas en train, parce qu'il était peut-être encore étudiant, je ne sais pas à l'époque, il avait 22 ans, hein.
22 ans peut-être.
Oui, c'est possible. Est-ce que tu crois qu'il ne se met pas lui-même en scène, même si le personnage ne lui ressemble pas, hein?
Non, il lui ressemble pas. Bah écoute, ça je dirais, pose la question à Bastien Vivès. Là, je veux pas
Ouais.
répondre pour lui parce que du coup, s'il est dans cette situation-là, ça a dû être difficile de choisir quand même.
Oui, parce que les deux filles sont en dehors des arguments de Charlotte, donc on ne peut nier. Je veux dire, non, mais c'est difficile. D'Alice,
Oui,
pardon.
d'Alice,
Ouais,
oui.
voilà. Tu vois, je pense à Alice et
Et
je
tu...
parle de Charlotte.
Ben oui, je veux dire,
Et
il n'y a pas de choix en fait.
voilà. Bref, une BD sympathique. Et c'est vrai que je comprends que Bastien Vivès ait fait parler de lui par la suite, parce que pour une première BD, c'est plutôt pas mal.
C'est intéressant.
Ouais. Ouais. Donc c'est chez KSTR. Et ça coûte.
10,40 €.
Voilà, c'est même pas trop cher.
KSTRBD.com.
Oui, donc Casterman, quoi.
Ah bon?
Ouais.
Oh, mais t'es trop fort en diminutif. Eh bien, pour finir, le fils de son père.
Des frères Mariotti. Guillaume et Olivier Mariotti. Il est dédicacé celui-là aussi? Non mais franchement.
Ouais, mais celui-là, il est pour Thio, alors du coup, il est bien dédicacé.
Tu vois, il m'a demandé au moment de la dédicace si Mathieu s'écrivait avec un ou deux T. J'ai fait signé pour Thio. Comme ça, je prenais pas de risque, j'oublie tout le temps.
C'est la première BD que j'ai dédicacée pour Thio.
Bah voilà.
Toutes les autres, il y a marqué Mathieu. Bon.
Donc, c'est chez les Enfants Rouges comme éditeur, petit éditeur qui sort plein de choses sympathiques.
Collection Mimosa.
Voilà. Pour une somme que l'on peut citer, qui doit être marquée.
17 €.
Oui.
Ah, mais tu me l'as fait payer 19?
Hein, quoi, non.
Quoi?
C'est de l'intimiste générationnel. Nous suivons la vie. Ouais, t'as vu ces deux mots comme ça
Ouais, ça,
pète,
non,
c'est
ça,
super
ouais,
intello.
faut, ouais, la fois, quand même, faut faire gaffe parce que là, ça commence à.
Ouais, puis on essaye de trouver des nouveaux mots à chaque fois, c'est dur. Donc en gros, nous suivons la vie de Olivier, qui est prof de dessin et qui va faire sa première expo. Et donc, bah, pour sa première expo, il y a un peu toute sa famille, sa femme, ses deux gosses, son frère, sa sœur, sa mère, ses deux amis, enfin ses deux amis, deux personnes avec qui il a gardé grand contact, c'était ses entraîneurs de foot quand il était môme, qui sont devenus des amis, son ancien enseignant, etc. Et finit par se poser très rapidement la place du père, car dans un éclair, il croit voir l'ombre de son père se détacher alors que les plombs ont sauté dans la galerie. Et on a un flashback qui va nous raconter les relations que Olivier a avec son père et pourquoi est-ce qu'elles se sont détériorées. Et on va suivre deux périodes en parallèle, la période où il montait son exposition et où il travaillait dessus, et son enfance.
Donc
Le
déjà au
dessin.
niveau du dessin, magnifique.
Multiple. Vas-y, tu es magnifique, je te
Magnifique.
laisse parler de ce magnifique dessin.
Alors déjà donc bon, tout le long de la bande dessinée, on a toujours le même gaufrier.
Ouais, un gaufrier de 3
Trois
par
fois quatre,
4.
ouais. Tout le temps. Et bon, on va, enfin, le choix qu'ils ont fait, c'est d'avoir soit du case par case, soit d'avoir en fait
Un dessin
un dessin
découpé par ce
découpé
gaufrier.
par ce gaufrier, comme si on regardait au travers d'une fenêtre.
Ou comme si,
si
on
on regardait au
regardait
travers de...
différents détails.
Ou comme si on regardait au travers d'une bande dessinée. C'est...
Oui.
Voilà. Et là, on en revient à la mise en abîme qu'il y a au tout début.
Wow. Ah ouais, tiens, j'ai pas vu ça.
Et voilà. Donc le dessin est, est simple. Les couleurs sont vraiment dans les tons pastel. Mais bah, j'ai trouvé ça splendide. C'est un mélange,
que...
c'est un mélange.
Alors, sachant
à la
que
fois...
dans la BD, le héros s'appelle Olivier et que son frère s'appelle Guillaume et que le dessinateur et scénariste de la BD s'appelle Olivier Mariotti et que le coloriste s'appelle Guillaume Mariotti. Y aurait-il un lien ?
Je pense.
Ouais. Je pense aussi.
Attends, je suis en train de m'amuser avec les pages.
En train de t'amuser avec les pages, ouais.
Voilà, non, enfin, vraiment, le dessin est splendide. Je me suis régalé.
Moi, ce que j'ai adoré, c'est l'usage de styles différents. Alors, non seulement il y a cette pratique du gaufrier qui est utilisée très intelligemment, surtout par exemple dans la dernière planche, une des dernières planches où l'on voit deux images qui sont alternées dans le gaufrier. Je vais trouver la planche. C'est une des dernières planches. On a deux images qui sont alternées dans le gaufrier et qui sont vraiment superbes. Nous avons donc... c'est la dernière. Et puis il y a un travail graphique différent, c'est-à-dire qu'en fonction des époques, c'est dessiné différent. Son enfance a un côté qui m'a fait penser à du Fernand Léger. Dans le trait. Mmh. Et puis il y a aussi beaucoup plus fantasmé, on voit que c'est beaucoup plus... que c'est des souvenirs. Et donc on se rend compte rapidement en fait, qu'il a été témoin des exactions de son papa qui avait une maîtresse. Et la maîtresse est toujours représentée par une sorte de caricature de voiture. C'était sa voiture rose de
une
sport.
Voiture rose de sport.
Voilà, on ne la voit jamais, la maîtresse, on voit juste sa voiture. Ou bien alors, la maîtresse est représentée sous la forme de cette voiture humaine. On est dans un style beaucoup plus qui part en vrille, parce qu'on est dans une image d'enfant. Et ce côté Fernand Léger qui nous pose une époque, qui nous pose un ton différent. Et on a quelque chose qui est, pour l'époque contemporaine, beaucoup plus... stylisé, beaucoup plus moderne, avec des personnages avec des sortes de grands yeux. Ça me fait penser un peu à Broussaille. Tu connais pas Broussaille ?
Non.
Bon, ça m'a fait un peu penser à Broussaille. Peut-être la coupe de cheveux aussi. Vraiment joli. Et un travail sur la couleur intéressant, surtout au niveau d'une texture qui revient tout du long. Est-ce que tu as fait gaffe à ça ? La texture qu'il y a sur sa peinture, qui est aussi la texture de la moquette qu'il pose, la texture des murs de la tapisserie que son père retape, la texture du zodiaque qu'ils utilisent pour aller en mer, de son t-shirt. Et cette texture revient comme un motif récurrent, sauf que j'ai pas compris pourquoi.
Voilà. C'est pas faux.
C'est le seul truc, c'est que j'ai trouvé ça super intéressant, mais j'ai pas compris en quoi. Donc, je m'ai un peu largué. Bref, très 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 joli, très très bien raconté, très prenant.
Ouais. Maintenant, au niveau du scénario, t'avais dit quoi, toi ?
Touchant.
Eh ben moi, j'étais resté sans voix, j'ai rien mis.
Oh, comme tu bottes en touche, mais belle et poétique.
Bah écoute, non, mais... bon, déjà peut-être aussi, voilà, parce que l'histoire, ça se passe c'est à Marseille, quoi.
Oui.
L'US Michelis, en plus, c'est mon quartier, quoi.
Oh.
Vas-y, serre-toi une mousse pendant que je parle de mes souvenirs d'enfance. Toi.
Vas-y.
Non, mais voilà, non, c'est bon. C'est... Là, encore une fois, on revient dans un truc qui est ancré, oui, dans du régionalisme, dans la géographie locale.
Oui. Tu devrais parler avec plus l'accent, je pense.
Mais c'est beau. Oui. Voilà, c'est beau, merde.
Il y a un parler très très vrai, effectivement, et quand on est de la région, enfin quand on y vit, parce que moi je ne suis pas de la région, quand on y vit, on reconnaît vraiment le parler des gens, qui est très 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 bien mené. Et puis ce côté, voilà, ces potes supporters, etc., qui ont une façon mais de se maganer à la Marseillaise, quoi. Tu sens l'accent, il n'est pas écrit, hein, l'accent, mais tu le sens à 15 000, quoi, c'est...
Et puis l'ambiance au stade aussi, là, tu retrouves, quoi.
Mais tu notes qu'en plus, ils sont même pas sur les trucs des supporters, quoi.
Non,
ils sont sur les gradins tout pourris.
Ouais, ça va, ils sont en jambon ou gagné, mais...
bon,
pourri, quoi.
Alors, pour le foot, par contre, je laisserai plus Thio en parler, parce que bah, ça m'intéresse pas. J'ai déjà été au stade, parce que c'est une expérience à faire. Mais le foot, non, ça me branche pas plus que...
Même c'est un prétexte, le foot, quoi.
Oui, qui n'est pas central. Moi, j'ai été touché par le côté de la relation au père. Alors, je sais pas, c'est peut-être parce que je faisais aussi des travaux avec mon père quand j'étais môme. Je ne l'ai jamais soupçonné à tromper ma mère. Mais bon, je trouve que on a. Par exemple, il y a quelque chose qui est surprenant, c'est qu'il ne montre pas le clash. Jamais. On voit le moment où il est avec son père et où ça va. On voit le moment où il s'est engueulé avec lui, après qu'il soit engueulé. Mais on ne voit pas le moment où il envoie chier son père et décide de plus le voir. Enfin, décide. Sauf qu'en fait, il est dans une. Comment? Ah zut, je trouve plus le mot. C'est une forme d'hypocrisie, parce qu'il a envie de voir son père. Il aime son père, mais il n'a pas envie de le revoir par fierté. Voilà, c'est de la fierté mal placée, parce qu'il a envoyé chier son père et que il a ses raisons, qu'il y croit. C'est aussi vis-à-vis de sa mère, je pense. Et il veut pas revenir en arrière, et pourtant il aimerait. Et ça, c'est super touchant et super beau. Surtout qu'en parallèle, on voit sa relation avec ses enfants, qu'à un moment j'ai cru, c'est le titre qui fait croire aussi, que peut-être que lui aussi allait finir par faire comme son père. Il y a un moment où ça n'a pas duré longtemps, où je me suis dit, est-ce que lui va pas tromper aussi sa femme? Bon, d'un autre côté, l'auteur aurait été emmerdé de l'écrire en BD, parce que ça aurait été avoué automatiquement. Peut-être
C'est peut-être son coming out, écoute.
qu'il l'a fait en fait et qu'il ne va pas le dire.
Bah écoute, ça, on lui
Parce
laissera.
qu'il y a ces petites étudiantes, la mignonne, qui commence à
Ouais,
me
enfin, on lui
brancher.
laissera la paternité. Ça, c'est ta paternité, hein. Je te la laisse, tu te débrouilles.
Hein, quoi?
Hein, quoi? Voilà.
Bref, j'ai trouvé que c'était beau, cette relation à l'enfance, au père, à l'admiration qu'on peut avoir pour son père, tout en détestant certains de ses aspects.
Ouais.
Voilà. C'est bien résumé. Maintenant, j'aimerais bien réussir à les rencontrer parce que quand j'ai fait faire la dédicace, je n'avais pas encore lu. Pour savoir est-ce que cette BD a aidé à faire changer les choses.
Oui, mais bon, peut-être qu'ils n'ont pas envie non plus d'épancher leur vie privée avec toi, non, PO.
Tu fais pas une BD où tu racontes ta vie si t'as pas envie d'un minimum d'épancher ta vie privée. Là, franchement,
Oui,
t'es
mais
dans
ils l'ont
le.
épanché dans un livre, ils vont pas te
Oui.
raconter la suite. C'est
Faut qu'il
leur
fasse un
suite.
tome 2. Voilà.
Peut-être qu'il n'y aura peut-être pas autant de matière. Hein. Quand tu fais un truc qui est vraiment privé, quand c'est écoulé. Hein.
Oui.
Regarde ce que nous disait Richard DiMaterno
Ouais.
sur Eddie Langoisse.
Et dit l'angoisse, oui.
Voilà, il l'a fait une fois, il le fera sans doute jamais, quoi.
Donc le fils de son père, chez les enfants rouges, des frères Mariotti, qui ont un site web qui m'a fait rire, frèresmario.blogspot.com. Franchement, très 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 sympa. J'espère qu'ils vont faire d'autres bandes dessinées. C'est très marrant de les voir en dédicace parce qu'en fait, il y en a un des deux qui est là, mais qui regarde parce que il n'y a que Olivier qui dessine et qui fait les couleurs en fait à l'aquarelle, pendant que Guillaume y parle avec les gens.
Bah attends, c'est pas mal du coup, parce qu'il
Ouais.
peut être bien concentré sur le
Ouais, sur
dessin.
le dessin pendant que tu discutes. Voilà. Par contre, je n'avais pas son t-shirt d'Arctarus à la dédicace.
Ouais, par contre, du coup, quand même, je leur dis merci, parce que la dédicace est splendide. Merci.
Oui, franchement, puis elles sont vraiment impressionnantes.
Et bien maintenant, le HS.
Non.
Si.
Le meilleur du mieux.
Ah ouais, de suite.
Le meilleur du mieux. Alors là, Zen, ça
Non,
va être
non,
dur, là.
non, là je. Alors, t'as du
Oh.
révolutionnaire. Voilà, moi je te donne mon choix. T'as de révolutionnaire, t'as de l'historique.
Bon, moi je vais dire le fils de son père pour une raison très
Ah
très
non, c'est le
simple.
mien ça!
Non, mais je veux dire, ils m'ont tous plu. Ils m'ont tous plu, vraiment. Le Ultimate Mystery est hors de propos hein, sur le sujet, vous l'aurez compris. Mais toutes les BD m'ont plu. Mais le fils de son père, ça m'a marqué, ça m'a touché. J'ai trouvé ça tellement vrai, tellement juste, que franchement, très très bien.
Ouais, bon ben écoutez, là malheureusement je vais faire
On est d'accord?
ouais, on est d'accord, ça arrive pas souvent, mais là on est d'accord
Ouais,
parce
juste
que
derrière, j'hésiterais, mais vraiment entre Blackbird et Champion Z, mais alors l'hésitation serait énorme, quoi.
ben disons
Difficile, hein.
que enfin
C'est
voilà, on a
tellement rien à voir.
ben, c'est trois bouquins très différents, trois bouquins qui ont énormément d'intérêt du point de vue du dessin pour deux, peut-être moins pour Blackbird, du point de vue de l'histoire pour les trois.
Il y en a un qui touche le cœur, il y en a un qui touche l'histoire, et il y en a un qui touche le social.
Ouais, et donc, moi, mon préféré, voilà, ça resterait quand même Le Fils de son Père parce que c'est vraiment un beau bouquin avec une très belle histoire et un dessin qui est splendide, quoi.
Bon, bah, je suis plutôt content parce qu'il faut savoir que j'ai offert ce bouquin à Thur en lui disant tu veux que j'achète un truc pour une dédicace
Non, en fait, tu me l'as pas
et
offert.
oui pardon
Tu me l'as
je te l'ai je te l'ai acheté
acheté.
oui je lui ai acheté la BD en disant tu veux que j'achète un truc pour une dédicace et il m'a dit ouais mais quoi je lui ai dit j'en sais rien il m'a fait je te fais confiance bon ben ça va
Non, là,
j'ai assuré le steak.
c'est vraiment un truc magnifique. En plus, voilà, un format un peu original.
Ouais.
Ouais, trop bien. Bon. Allez, on passe quand même à la suite, parce que sinon, on va durer 2 heures.
Ouais.
Hein, et
Le or,
que...
bon, ça va, on est dans le timing là, 56 minutes à peu près.
Ouais, mais enfin, bon, il est quand même presque déjà 7h30 et j'ai faim, quoi.
Ventre sur pattes. Le hors sujet.
60 secondes chrono avec Nicolas Cage et Angelina Jolie. Ah, oh, mince, pardon.
Rien à voir. 60 secondes, qui est une web série produite par Arte et qui est diffusée exclusivement sur
Sur
Facebook.
Facebook.
Sur le concept, c'est original, c'est assez surprenant. Nous allons suivre dedans la vie de Fantille, qui a décidé de se mettre en sorte de discipline personnelle, de se filmer 1 minute par jour et de le diffuser sur Facebook. Et donc tous les jours, on peut voir 1 minute, pile poil, de la vie de Fantille qui va nous faire ses remarques. C'est un format super bizarre et original qui marche vachement bien. Ça a été écrit par une blogueuse que je ne connais pas, mais je vous invite à écouter l'interview qu'elle a faite dans le podcast écran.fr qui était assez sympa. Et en gros, pendant 1 minute, eh ben, on va avoir des choses plus ou moins intéressantes en fin de compte. Parce que ce que je trouve super réussi, c'est que bah, la minute. Il peut se passer quelque chose de très drôle, ou il peut se passer pas grand-chose, mais ça va nous permettre de nous intéresser au quotidien du personnage, de voir bah, qu'il ne se passe pas des trucs marrants tous les jours, en fin de compte. Hein. L'actrice est, je trouve, superbe et très très vraie. Elle passe très très bien. Le concept est génial. Je trouve ça super sympa.
Super dur aussi, hein, parce que c'est
Voilà.
pas évident de raconter quelque chose en 60 secondes, quoi.
Alors, à l'heure actuelle, il y a 19 épisodes. Au moment où cette émission sera diffusée, il y en aura beaucoup plus.
Ouais.
Beaucoup plus. Vous pouvez rattraper. Rattrapez pas trop tout d'un coup parce que ça peut être un peu l'indigestion. Mais c'est vrai que voilà, parce qu'il y a des épisodes où il se passe pas grand-chose, mais alors il y en a certains. Et puis il y a une interaction avec le public, avec le spectateur. Par exemple, un des épisodes où elle demande à quelqu'un au téléphone d'aller chercher un mot sur Google, que je ne peux vous prononcer parce que c'est trop compliqué, qu'il faudrait que je l'ai noté devant les yeux. Sans expliquer à aucun moment dans la vidéo ce que veut dire ce mot. Donc forcément, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder sur Google. Ce qui rend le gag encore plus drôle. Même si on a une idée de ce que ça peut vouloir dire. Bref, plein de petits trucs où on suit le quotidien de cette jeune fille qui a un boulot qui la gonfle.
Et qui n'est plus stagiaire depuis 4 ans déjà.
Voilà, elle le répète régulièrement alors que tout le monde croit qu'elle est encore stagiaire. Qui a une vie sexuelle inexistante. Et qui aimerait bien que traverser, sortir de ce désert sexuel.
Mais elle a son concombre.
Oui, mais elle achète pas un concombre tout de suite. Les gens se font des idées, franchement, hein.
Surtout qu'elle choisit les plus gros.
Non, pas les plus gros.
Les plus grands, pardon.
Enfin bon, c'est très très bien écrit. Alors il y a beaucoup de, en plus il joue beaucoup et ça doit être très très dur pour l'équipe qui le gère avec les commentaires sur Facebook qui sont assez parfois. En gros, il y a des gens qui arrivent au 19e épisode à dire ouais non mais franchement c'est toujours aussi nul. Tu vois,
Ben,
il y a
si t'as vu
des.
les 19 premiers, c'est que quelque part ça t'a plu, hein.
C'est. Mais pourquoi tu continues à regarder, quoi? Je sais pas. Donc.
Ben, parce qu'il espère.
Ouais.
Il a la foi, tu sais, il se dit, ouais, un jour ça sera bien. Ben oui, mais si ça te plaît pas, ça te plaît pas, ça peut arriver, c'est pas
Voilà,
grave.
donc enfin le concept est intéressant, et puis bon, bah, c'est quand même un truc gratos qu'on peut regarder à volonté. Il suffit d'aimer la page sur Facebook. Tous les jours, 19h, 60 secondes de la vie de Fantille, de façon très 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 rigolote. Et ça aura peut-être une suite. Je crois qu'ils ont tourné une soixantaine d'épisodes, un truc comme ça. J'ai trouvé ça très 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 bien. Voilà, c'était notre hors sujet. Est-ce que tu veux parler d'un truc vite fait que t'as adoré? Genre? Non, pas d'idée.
J'ai adoré la bière aujourd'hui.
Ouais. Très bien. Donc l'agent là en fût, c'est sympa, sauf qu'ils ont changé le système, il ne faut pas l'adapter sur les distributeurs de bière que j'ai.
Ouais, c'est dur, c'est dur.
Voilà, c'est les
Mais
bons.
en fait, c'est surtout parce que je voulais un petit punch, mais en fait, il avait plus de
Si.
du vieux rhum.
Ah oui,
Non.
non, j'ai plus de vieux rhum,
T'avais
j'ai.
plus de vieux rhum en fût. Voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, hein?
La
Voilà,
vie est dure.
monsieur, c'est plus recevoir, quoi.
Quoi qu'il en soit, nous allons nous quitter. En parlant de Facebook, hein, n'oublions pas facebook.com/oneiclub.
Ou sur Twitter, vous pouvez suivre OneIPA et sûrement pas moi.
Voilà, parce que toi tu es un handicapé du net.
Voilà. Sinon iTunes aussi, vous pouvez laisser des commentaires, comme ça du coup on monte et on passera devant tout le reste.
Voilà, et on va battre, je sais pas, Huggy King ou le Rendez-vous Tech.
Ouais, enfin là on est de la marge quand même.
Ouais, il y a de la marge. Et puis merci à vous de nous écouter encore et à dans 15 jours. Ciao!
Ciao, ciao!